Mais bonjour tout le monde, c'est une joie d'être avec vous ce matin. C'est un plus petit groupe, donc je suis moins stressée. quand mon père m'a demandé il y a quelques semaines si je voulais partager, il m'avait un peu demandé, bien, il m'avait donné l'option de partager sur le thème des enfants en bas, donc l'histoire de Daniel dans la fosse des lions, ou un autre sujet de mon choix. Donc j'avais commencé à préparer un message sur le prophète Daniel, mais là, j'ai senti lors de ma préparation qu'il m'a mené ailleurs. Donc, on va oublier les lions, puis les fausses, puis le prophète Daniel ce matin, puis ce sera pour une autre fois. On va parler d'un autre récit important dans la Bible, dont Myriam, que Myriam va lire pour commencer.
Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Amen.
Merci, Myriam. Donc, on va prier ensemble avant de commencer. Seigneur Jésus, merci de nous accueillir. Merci qu'on est ensemble. Je prie, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, que ce soit oublié ou que je ne le dise pas. Puis que, c'est ça, que vraiment, que ton Saint-Esprit parle aujourd'hui, que ce ne soit pas mes mots, mais tes mots. Je te prie de bénir cette assemblée ce matin. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui s'intitule « Un évangile qui accueille ». Puis on va s'inspirer en fait de l'histoire de Marthe et de Marie pour faire une courte étude biblique sur le thème de l'hospitalité dans la théologie chrétienne. Donc, pour commencer, on va définir le mot « hospitalité ». On ne voit pas très bien, là. Mais le dictionnaire, simplement, le Larousse, c'est rien de très spécial, offre la définition suivante. Donc, c'est l'action de recevoir et d'héberger chez soi, gracieusement, quelqu'un par charité et ou amitié. Donc, on va travailler avec cette définition ce matin. Donc, c'est accueillir chez soi. Puis, ce matin, on va se poser la question suivante. Pourquoi l'hospitalité? Donc, pourquoi l'hospitalité biblique, en fait? Donc, premièrement, la grâce de Dieu se manifeste quand on est vulnérables les uns avec les autres. Deuxièmement, c'est une façon d'aimer notre prochain. Puis, troisièmement, on profite nous-mêmes, en fait, de l'hospitalité de Dieu. Donc, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que Jessica, qui habite encore chez ses parents, qui n'est pas propriétaire d'un foyer, qui est aux études, qui n'a pas d'enfant, pas de mari, pourquoi elle va me dire que c'est important d'accueillir des gens chez moi? Ou peut-être que vous êtes comme moi, que vous habitez chez vos parents, puis vous vous dites comment est-ce qu'un message sur l'hospitalité pourrait s'appliquer à vous. Et je comprends. Mais ma réponse à ces deux raisonnements ou ces questionnements, c'est que l'hospitalité, c'est un appel à tous les chrétiens, pour tous les chrétiens. Donc, je réalise que je suis dans une saison de ma vie dans laquelle je n'éprouve pas le même stress que plusieurs d'entre vous. Et je sais que je ne suis pas en charge d'un foyer moi-même pour accueillir des gens. Mais j'ai été bénie encore et encore par l'hospitalité de frères et sœurs en Christ. Et j'ai été témoin, en fait, des joies et des inconforts d'accueillir, en voyant mes parents avoir un ministère d'hospitalité dans notre maison. Puis j'essaie autant que possible d'accueillir chez nous, puis de façonner un peu ma vision de l'hospitalité pour le jour où je vais partir de chez moi. Pas trop bientôt, maman, inquiète pas. Donc, dans ce texte, on voit que Jésus arrive dans le village où habitent Marthe et Marie et qu'elle l'accueille. Puis, pour un peu de contexte, Jésus était avec un gros groupe en train de faire du ministère à ce moment-là. Plus tôt dans le chapitre, on voit qu'il est en train de parler à 72 disciples. Donc maintenant, est-ce que les 72 disciples sont entrés dans le village avec Jésus, ou est-ce que c'est ces 12 dont on parle d'habitude, ou est-ce que c'était une partie des 72? On ne le sait pas vraiment, le texte n'est pas clair, mais on sait qu'ils étaient plusieurs. Puis que, dans verset 38, une femme nommée Marthe les accueillit dans sa maison. Dans le texte grec, le mot « accueillir » est « hupodekomai ». Je suis sûre que j'ai massacré ça. Puis ça veut dire « recevoir » et « souhaiter la bienvenue à un invité ». Puis le mot est utilisé plusieurs autres fois dans la parole, comme quand Zachée invite Jésus chez lui à Jéricho, quand Jason accueille Paul et son groupe à Thessalonique, pardon, et quand Rahab, la prostituée, accueille les espions chez elle aussi à Jéricho. Donc, c'est un mot qui décrit un accueil que Dieu a honoré, puis que la parole semble valoriser. Puis le mot démontre vraiment que Dieu a un cœur pour l'hospitalité. Puis en fait, on voit que la structure du ministère de Jésus dépendait de l'hospitalité des gens. On voit dans Luc 9 et dans Luc 10 qu'il explique à ses disciples que lorsqu'ils vont voyager de village en village pour faire du ministère, la première chose qu'ils doivent faire, c'est trouver quelqu'un qui va les recevoir, puis rester avec cette personne-là dans le village, chez elle, alors qu'ils vont prêcher. Puis s'ils ne trouvaient pas une maison ouverte à eux, ils faisaient juste continuer leur chemin. Donc, c'est pas comme aujourd'hui qu'on réserve un bloc d'hôtel pour une équipe de croisade pour chaque ville de l'itinéraire de nos voyages missionnaires. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Lui, il valorisait l'hospitalité. Il cherchait des gens qui allaient ouvrir leur maison à lui et à ses disciples. Puis le passage nous dit que Marthe était une de ces personnes-là. Marthe les accueillit, donc hupo dekomai, ça a été honoré par Dieu, dans sa maison. Et ensuite, on voit qu'elle s'occupe. Elle est en train de préparer la maison, elle est en train de faire toutes les tâches domestiques, la nourriture. Elle s'assure que tout est beau, que sa maison est convenable pour le groupe. Mais sa sœur, quant à elle, elle s'assoit puis elle demeure assise au pied de Jésus et elle écoute alors qu'il enseigne. Donc, elle est avec tous les autres disciples en train de l'écouter. Puis Marthe, elle se fâche. Puis elle dit, « Jésus, tu vois pas que ma sœur est paresseuse en ce moment? Je suis en train de courir partout en train de tout préparer pour ton groupe. » Dis donc de m'aider au lieu d'être paresseuse puis de s'asseoir là. Puis qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes puis tu t'agites pour beaucoup de choses. Calme-toi. Il y a seulement une chose qui soit vraiment nécessaire. Puis Marie a choisi la meilleure part. Puis personne ne la lui enlèvera. Donc au lieu de réprimander Marie, il réprimande Marthe. De s'agiter, de pas simplement le contempler, de s'asseoir à ses pieds. Puis très souvent, quand on parle de ce qu'est-ce, on parle de l'importance de ne pas être trop occupé et distrait des choses du monde. On devrait plutôt contempler Jésus. Puis c'est important ça, mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. En fait, l'idée de ce texte souvent, c'est qu'il faut juste s'asseoir aux pieds de Jésus plutôt que de courir partout. Puis souvent, en fait, quand on parle du texte, on donne l'impression que c'était seulement Marie qui était ouverte aux choses spirituelles, que Marthe était fondamentalement pas spirituelle. Mais moi, je dirais que l'invitation de Marthe à Jésus prouve qu'elle est ouverte aux choses spirituelles. Elle aussi, elle désire être une disciple de Jésus, puis elle veut l'honorer en l'invitant chez elle. Mais on peut apprendre quelque chose de son erreur ce matin. Puis on peut apprendre quelque chose d'important sur l'hospitalité là-dessus. L'initiative de Marthe était excellente. Puis plusieurs d'entre nous, on n'ouvre pas notre maison et notre cœur à notre prochain. Elle l'a fait. Mais Jésus dit qu'elle n'a quand même pas la bonne approche. Je pense que beaucoup de gens sont intimidés par l'idée d'accueillir chez eux. Puis premièrement, dans le Nord global, donc comme l'Amérique du Nord, en Europe, le sphère publique et le sphère privée sont très séparés. Donc, dans notre histoire, par contre, et dans le Sud global aujourd'hui, donc l'Amérique du Sud ou l'Afrique, la communauté est vraiment plus valorisée. Donc, l'hospitalité, c'est moins tabou. C'est pas tabou et vulnérable d'inviter les gens dans son foyer. Mais souvent ici, les gens vont hésiter d'accueillir parce qu'ils craignent qu'ils ne connaissent pas assez la cuisine ou ils n'ont pas une maison d'assez grande taille ou ne sont pas assez extravertis. Mais vraiment, ces craintes témoignent d'une confusion par rapport à l'hospitalité biblique. Dans la culture nord-américaine, on entend que pour accueillir des gens chez soi, il faut que tu aies une grande maison, il faut que tu aies une grosse cour, il faut que tu aies un menu pour impressionner, il faut que tu aies une table qui est méticuleusement dressée, il faut que tu aies une porte qui est bien parée. Puis Marthe, elle a un peu cette vision de l'hospitalité, on dirait. Puis ultimement, elle est en train de se focusser sur elle-même dans le processus. Elle n'est pas en train de se focusser sur ses invités. Jésus dit dans ce passage que la vraie hospitalité ne requiert pas la perfection. L'hospitalité biblique consiste de s'assurer que nos invités se sentent chez eux. J'ai deux amies, en fait, que j'aime énormément. Puis l'une d'entre elles, elle a une maison immense, une très, très belle maison. Puis quand je vais chez elle, la maison est tellement parfaitement installée que je viens souvent que je pourrais mettre ma nourriture sur le sol et le manger comme ça, puis ce serait complètement hygiénique. C'est tellement propre, c'est immense. Toutes les possessions sont enfoncées dans les placards et les tiroirs. Je le sais parce que j'ai regardé l'autre fois. Les surfaces sont complètement vides. Puis honnêtement, c'est difficile de se sentir complètement à l'aise. J'ai peur de toucher quelque chose puis qu'on s'en rende compte. C'est très silencieux. Tout est vraiment installé de façon intentionnelle, on dirait. Puis, mon autre amie, elle habite dans une maison très simple, un tout petit espace, puis la vaisselle est rarement faite quand je vais chez elle, les lits sont pas faits. Mais parce que c'est tellement informel, je me sens complètement à l'aise de me jeter sur le divan, de rentrer dans la cuisine, de me verser du café par moi-même. Elle me donne une assiette de ce qu'ils allaient manger cette journée-là, ils changent pas le menu pour moi. Si c'est des restants de spaghettis ce soir-là, c'est ça qu'on mange, puis c'est parfait. Puis la conversation, elle, est toujours vraiment puissante. Puis c'est pas forcé, je cherche pas à dire les bons mots. Puis, on fait la vie ensemble, simplement. Puis, quand je parle de ces gestes, je suis jamais en train de penser à la vaisselle qui n'était pas faite ou si le repas était sophistiqué ou pas. Je suis toujours bénie quand je pars de chez elle. Puis, j'apprécie vraiment cette approche informelle à l'accueil et à l'hospitalité. Je suis une d'eux, tu sais. Je rentre, puis je fais juste partie de la famille. Puis, notre passage dans Luc semble proposer que Jésus aussi, il aime mieux cette approche informelle. Jésus voulait pas que Marthe donne l'illusion que sa vie était parfaite. En préparant un mets parfait, en ayant une maison parfaite, il voulait simplement qu'elle l'invite à entrer dans le chaos de sa vie ordinaire. Parce que c'est quand on montre notre vulnérabilité les uns aux autres et à Dieu que la grâce de Dieu se manifeste. Puis pratiquement, comment est-ce qu'on montre la vulnérabilité les uns aux autres en accueillant les gens chez nous? Comment est-ce que Marthe aurait pu adopter cette approche? Bien, premièrement, la vulnérabilité sort quand on accepte de montrer les imperfections de notre vie au lieu de faire le show. Peut-être qu'il faudrait décider d'être présent à la table, comme Marie au pied de Jésus, plutôt que d'être enfermé dans la cuisine, comme Marthe. Peut-être qu'il faudrait accepter que la maison ne sera pas en parfait état quand les invités arrivent. L'hospitalité, ce n'est pas concerné avec l'utilisation d'assiettes en papier ou de porcelaine fine, par un menu qui est composé de restants ou des leftovers en bon québécois, ou de l'exécution parfaite d'un tartare de bœuf ou d'un filet mignon. Un invité, en fait, il va prendre en plus se sentir à l'aise chez soi quand il y a des traces de vie autour de votre maison, plutôt que s'il a l'impression que ses hôtes ont préparé un spectacle du Cirque du Soleil pour son arrivée. Il va beaucoup plus se sentir ouvert ensuite à les accueillir à son tour sans se faire juger sur sa performance. En tant que le peuple de Dieu, soyons des gens qui ouvrons notre maison en étant concentrés sur la qualité de la conversation, de la connectivité, de l'intimité, pas sur la qualité de la présentation et de la performance. En réprimandant Marthe, Jésus est en train de dire que c'était sa fierté qui était en train de motiver ses préparatifs. Mais il lui dit, Marthe, cesse de t'en faire de ce que je vais penser de toi. Parle-moi, viens ici, écoute-moi. Quand on est en train d'obséder sur ce que nos invités vont penser quand ils viennent chez nous, on est ultimement en train de pas penser à eux, on est en train de penser à nous. On est en train de penser à ce qu'ils vont penser de moi. L'hospitalité biblique se concentre sur les autres, pas sur soi-même. Puis l'auteur Shauna Nyquist, oh, j'ai oublié de changer ma diapositive tantôt, désolée. L'auteur Shauna Nyquist le résume parfaitement quand elle dit « La véritable hospitalité, c'est lorsque vos invités quittent votre foyer en se sentant mieux à propos d'eux-mêmes, plutôt que de se sentir mieux à propos de vous. » Accueillir, c'est pas pour que les gens soient impressionnés par votre cuisine ou votre maison. Accueillir, c'est pour bénir ceux qui entrent la porte de chez vous. C'est pour prier pour eux, c'est pour s'encourager mutuellement, c'est pour briser du pain ensemble et communier en tant que fils et fille du Dieu vivant. Puis la vulnérabilité, elle peut sortir dans les conversations. Je suis désolée, vous ne voyez pas bien. Au lieu de garder la conversation superficielle ou de parler de choses qui sont confortables ou agréables, peut-être qu'il faudrait faire un plus grand effort de parler des deuils auxquels on est en train de faire face en ce moment. De nos luttes, de nos déceptions, des péchés avec lesquels on se combat. En partageant avec d'autres qu'on est brisé, la grâce de Dieu se manifeste parce qu'on peut être l'extension du pardon, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. En disant simplement, hey, je comprends, c'est difficile que tu passes par là, moi aussi j'ai passé par là, ou moi aussi je lutte avec ça en ce moment. On peut tous reconnaître notre besoin mutuel ou commun pour Dieu quand on fait la vie ensemble sans faire de performance. Puis on peut marcher ensemble et se pointer vers Jésus qui, lui, vient restaurer notre brisure. Donc, pourquoi l'hospitalité? C'est pour être vulnérable ensemble, autant en montrant la réalité de notre vie ordinaire, de tous les jours, ainsi qu'en étant honnête par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Puis la grâce de Dieu, elle devient manifeste là-dedans. Accueillir, puis l'hospitalité, c'est aussi une façon d'aimer notre prochain. Donc, dès l'Ancien Testament, on voit dans la mission de rédemption de Dieu qu'il utilise l'hospitalité, en fait, pour montrer son amour à son peuple, mais aussi à les encourager à se montrer de l'amour les uns envers les autres. Dans Ésaïe 58, 7, on lit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Puis dans 1 Pierre 4:9, on lit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » L'écrivain Jonathan Safran Foer, il dit « Rien, pas une conversation, pas une poignée de main, pas même un câlin n'établit une amitié avec autant de force que de manger ensemble. » Jésus, en multipliant les pains et les poissons, en transformant l'eau en vin au mariage à Cana, en finissant son temps avec ses disciples avec un dernier repas, il démontre que de manger, c'est une chose qui réunit. Le repas, c'est quelque chose que tous les humains, de toute sphère de société, de toute culture, de tous âges, on connaît ça. C'est le grand égalisateur, ça nous réunit. Entre midi et une heure aujourd'hui, vous, moi, les gens dans le quartier ici, les membres de l'Église catholique là-bas, notre premier ministre, les prisonniers à Joliette, tous, on va tous manger. Notre humanité le requiert. Puis Dieu, il utilise ce besoin fondamental de l'humain pour établir un rite chez l'humain, de le glorifier par l'action de manger ensemble. Matthieu 11, 19 explique que le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, sa communauté, les pharisiens et tout, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Si Jésus était connu pour manger et boire, il faudrait peut-être prendre le temps d'étudier comment il le faisait, puis comment les façons qu'il utilisait ceci pour la gloire du royaume. Puis quand on prend le temps d'étudier ça, on voit assez rapidement que Jésus utilisait des repas communautaires pour démontrer son amour à ses prochains, même ceux qui étaient marginalisés puis qui avaient des valeurs différentes que les siennes. En mangeant ensemble, on démontre de la mutualité. On exprime que, ouais, je suis différent de toi, mais ensemble, on brise ce pain. Notre système de valeurs, notre sphère économique, notre ethnie, notre allégeance politique, notre éducation, notre capacité, notre mental, notre orientation sexuelle est différente. Mais il n'y a pas de hiérarchie ici. Qui qu'on soit, on est autour de la même table, on mange le même pain, puis on est en communion ensemble. Puis ça, c'est la bonne nouvelle qui est concrétisée. Puis je pense souvent à l'histoire de Jésus avec Zachée, quand Jésus dit « Hey, moi, je viens chez toi, Zachée. » Il le reconnaît malgré sa différence. Moi, je viens chez toi. Mes parents, ils croient fermement au ministère de l'hospitalité, puis depuis mon enfance, je les ai regardés ouvrir leur foyer à des amis, des connaissances et des inconnus, des voisins, des gens qui venaient de loin, des personnes qui partageaient les mêmes idées qu'eux, puis des personnes qui étaient très différentes qu'eux. Puis j'aime beaucoup cette vision du foyer comme étant un endroit où les gens entrent par la porte, puis sont aimés, sont bénis, sont acceptés, puis sont pointés vers Christ. Je dois avouer qu'en grandissant, ma sœur puis moi, on se plaignait souvent, mais pourquoi est-ce que notre souper de Noël doit être partagé avec cette famille réfugiée qu'on ne connaît pas? Pourquoi est-ce que vous tenez tant à accueillir cette personne transsexuelle? Pourquoi est-ce qu'on passe par le trouble de se lier en amitié avec un individu qui a de si grands problèmes de santé mentale? C'était inconfortable, puis c'était vraiment pas toujours très plaisant. Puis il y avait souvent des malaises, des moments où je voulais m'enfuir dans ma chambre ou organiser une soirée de magasinage avec mes amis, puis je l'ai souvent fait, je vais vous le confesser. Mais de plus en plus, lentement mais sûrement, je vois à quel point c'était important. En ouvrant notre maison aux personnes marginalisées, en communiant avec ceux qui sont différents que nous, même quand c'est inconfortable, on peut témoigner de l'ouverture du royaume de Dieu à tous. Puis de la justice qu'est le ministère de Christ. Puis Jésus, en fait, dans notre passage qu'on est en train de lire ce matin, il montre que l'hospitalité, c'est un acte qui promeut la justice. Dans l'ancien Israël, dans le temps de Jésus, la femme était censée être préoccupée par tout ce qui était domestique, par l'accueil de ses invités dans son foyer et tous les détails domestiques dont la femme était culturellement responsable. Marthe faisait simplement ce qu'une femme à l'époque était censée faire. Elle se sentait probablement mal à cause de pression sociale. Elle s'est dit, il faut que je sois hors du chemin des disciples de Jésus et de Jésus. Il faut que je sois cachée en arrière, mais que je m'assure que tout aille bien, qu'ils soient nourris, que la maison soit bien. Elle faisait ce qui était normal à l'époque. Mais Marie, elle fait que s'asseoir au pied de Jésus avec les disciples, puis elle l'écoute. C'était scandaleux. Elle s'assoit avec les hommes, puis elle est en train d'apprendre. Jésus, par contre, il la condamne pas pour ce qui aurait facilement pu être considéré un acte d'insoumission ou de paresse. Il l'encourage. Donc, c'est quand même curieux. Il dit, « Oui, Marie, tu fais la bonne chose en t'assoyant et en apprenant avec mes disciples, les hommes. Puis ta sœur devrait faire la même chose que toi. » C'est comme à travers Marie, Jésus dénonce les structures sociales, politiques et religieuses qui ne pratiquent pas l'hospitalité radicale de Dieu. Une hospitalité qui surmonte l'injustice puis qui se fonde dans l'amour, la miséricorde et la compassion. C'est plus facile de simplement accueillir des gens qui pensent, qui agissent et qui ont l'air de nous. Mais en tant que disciples de Jésus, quel témoignage on peut avoir qu'on défie les normes de notre société, qu'on défie le statu quo, qu'on accueille les personnes rejetées, incapacitées, marginalisées autour de notre table? Quelle belle façon de démontrer l'évangile inclusif de Jésus-Christ et de donner un aperçu de la diversité qu'on va trouver dans le royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment juste la marque, le standard du chrétien d'accueillir celui qui est autrement pas recherché puis pas valorisé dans sa société. Mais en fait, vous savez jamais qui sera vraiment à votre table. Dans Hébreu, on lit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Donc, accueillez chez vous, puis vous allez peut-être rencontrer un ange. Non seulement l'hospitalité devient une façon d'aimer notre prochain, mais c'est aussi une image du royaume. La table devient alors un symbole puissant qui nous rappelle de la table de banquet qui nous attend. Une place où les riches, les pauvres, les petits, les grands, les femmes et hommes, tous, on va se réunir puis on va appartenir. Ça va être une table d'intimité puis une table de célébration dans la présence de notre Dieu. Et finalement, pourquoi l'hospitalité? Puis ce point-ci est assez court. Mais en fait, nous-mêmes, on vit de l'hospitalité gratuite de Dieu à tous les jours. On a reçu l'accueil du salut, payé par le sang de Christ, puis on est maintenant appelé à être l'extension de cette hospitalité aux autres. Oh, j'ai oublié de... Ouais. Romains 15, 7 dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Tout ce que nous avons, en fait, appartient à Dieu. Puis 1 Pierre 4, 10 dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc, soyons des intendants de la grâce de Dieu, en ayant le cœur de service et l'initiative de Marthe, mais la vulnérabilité et la mutualité de Marie. Même si tu n'as pas ton propre foyer ou que ta famille et toi n'ont pas une grande maison, Jésus, en fait, il t'invite aujourd'hui à ouvrir ton cœur et ton espace aux autres. Même si c'est imparfait, même si tu ne sais pas cuisiner, même si tu n'as rien en commun avec eux, puis même si tu décides dernière minute d'aller au restaurant, au café, je pense que ça compte aussi, il ne faut pas être légaliste. Il va l'utiliser pour sa gloire, puis il va l'utiliser pour amener son royaume ici. Puis il y a toujours plus de place à la table. Puis je vais finir, en fait, on va finir plutôt que d'habitude aujourd'hui, je vais finir avec les mots puissants d'auteur Rachel Haldovins qui dit que l'Église, en fait, c'est Dieu qui dit « Je lance un banquet ce soir et toutes ces personnes dépareillées et brisées sont invitées. Toi, viens ici, puis je te verse du vin. » Donc, on va prier ensemble pour terminer. Seigneur Jésus, merci pour ton hospitalité radicale qui va chercher les gens marginalisés, qui vient me chercher moi, Seigneur, dans toute ma brisure, puis tout mon péché. Tu m'accueilles, puis tu m'invites à la table de ton banquet, Seigneur. Puis je prie que chacun de nous à l'Église Oasis, on puisse être une extension de cette hospitalité-là, en étant vulnérables les uns avec les autres quand on s'accueille, en juste choisissant de ne pas faire de performance, mais de montrer à quel point on est tous brisés, puis de vraiment ressentir notre besoin commun pour toi autour de la table, Seigneur. Je te prie que ce soit une communauté qui est reconnue pour son accueil, autant dans notre Église, mais aussi à l'extérieur, que vraiment on s'accueille, puis on accueille ceux qui sont différents de nous, Seigneur. Donne-nous de la persévérance là-dedans. Aide-nous à mettre notre fierté de côté, puis juste de t'obéir dans cet acte que toi t'as tellement valorisé dans ton ministère ici, Seigneur. Que ton royaume vienne. Amen.